FASO IAFA, un programme de Studio IAFA. On se retrouve comme tous les samedis pour votre émission FASO IAFA, l'émission humanitaire qui vous est proposée par le studio IAFA. Aujourd'hui, nous parlons du déplacement et des changements qu'il peut occasionner sur la vie de ceux qui le vivent, plus précisément des changements sur le plan alimentaire. Quand ils passent d'une région à l'autre, le régime alimentaire peut changer. Comment s'adapte-t-il ? On en parle dans un instant. Quel impact psychologique ce changement peut-il avoir sur les déplacés ? Le docteur Daouda Kouma, maître de conférence en psychologie sociale du travail et des organisations, nous en dira plus. Et puis, nous terminerons en musique avec l'une des plus belles voix de la musique gospel au Burkina, auteur de tubes à succès comme Tu l'as trouvé ou Ça va aller. Séraphine Bansé est notre invitée du jour. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver. À la présentation, je suis Nelly Tapsoba. Entre la fuite vers l'inconnu, la perte de leurs biens, l'appauvrissement, l'incertitude d'avoir un logement décent et de pouvoir subvenir à leurs besoins élémentaires dans leur zone d'accueil, les personnes déplacées internes font preuve de beaucoup de résilience. Une nouvelle vie dans une nouvelle localité où les usages, même les plus courants, comme l'alimentation et la cuisine, sont différents de leurs habitudes. L'adaptation alimentaire, un autre défi pour les personnes déplacées internes. Reportage de Awamuniratu Tankwanu.
Secteur 3 de Banfora. Aïssa Tamboura, déplacée originaire de Barboulé, tout sourire, prépare du taux de maïs, une céréale qu'elle n'avait pas l'habitude de consommer dans sa localité d'origine. Changer brusquement ses habitudes alimentaires n'a pas été chose aisée.
Nous sommes venus ici, nous mangeons le maïs malgré nous. Ça ne nous rassasie même pas. Mais si nous ne mangeons pas ça, nous allons manger quoi? Nous n'avons pas suffisamment d'argent pour payer le mil. Chez nous, là, notre taux de mil, nous en mangeons avec une sauce de feuilles de baobab ou du lait. Mais même si nous ne gagnons pas le lait là, au moins que nous gagnons le taux de mil, parce que sincèrement, c'est pour ne pas mourir de faim que nous consommons le maïs.
Consommer le maïs, et surtout, s'y accoutumer, a été difficile pour elle, même s'il reste une marge d'adaptation.
Tu vois, il y a des boules dans mon taux. Ça prouve que je ne maîtrise toujours pas. Jusqu'à présent, je ne maîtrise pas comment on cuisine le maïs.
À quelques pas de chez les Tamboura, nous avons rencontré la matriarche Ramata, déplacée originaire de Gibo. Pour elle, le plus difficile a aussi été l'adaptation alimentaire.
Chez nous, on avait l'habitude de manger le soumbala fait à base de graines d'oseille. Ici, ils ne consomment que celui fait à base de néré. Nous, on l'utilisait juste pour se soigner. Nous avons eu du mal à nous habituer à son goût. Nos papilles commencent à s'habituer.
Abdourahman Zouré, lui, est originaire de Gorom Gorom. Il dit avoir développé des astuces pour amoindrir le choc de changement brusque de son alimentation.
On mangeait le sorgho, le petit mil, mais arrivé à Banfora ici, et on a eu ce grand changement. Il faut le maïs simple, c'est pas simple parce que tu manges ça, ça ne va pas. Un peu de temps seulement, tu as faim. Donc on a obligé de mélanger le sorgho avec le maïs ou bien le petit mil avec le maïs pour consommer. Bon, ça vaut mieux.
Dans une autre ville à Kaya, Balkissa Ouedraogo, originaire de Gibga, a eu l'idée de se rapprocher de leur hôte pour apprendre à cuisiner le maïs.
En tout cas, au début, le changement nous fatiguait. Mais pour les céréales et autres qu'on ne connaissait pas, on essayait de consommer progressivement et en changeant de temps en temps. Par exemple, le maïs, on ne savait pas qu'on pouvait enlever le son pour faire le tour. C'est en voyant les ressortissants d'ici faire qu'on a eu l'idée de les approcher pour comprendre. Ils nous ont montré comment faire et quand on fait le taux de maïs à présent, ça passe et on mange bien.
Au-delà des goûts alimentaires, des astuces existent pour garantir une alimentation riche et équilibrée, selon Denise Wadba Ouedraogo, nutritionniste à la pédiatrie Charles de Gaulle.
Les céréales s'accompagnent de quelque chose. Avec le maïs, si le consomme avec l'enveloppe, il est encore mieux. Moi, je pense que c'est plus ce avec quoi on doit le consommer. Si ils ont la possibilité d'avoir du haricot, Voilà, ça peut leur permettre de manger le haricot avec le couscous de maïs. Et là, ils pourraient aussi faire le tour avec. Dans la sauce, il va falloir avoir des protéines, avoir un peu d'huile. Voilà, c'est le beurre de karité. Et puis les feuilles, ou bien genre écraser de l'arachide, mettre dedans, ou bien mettre un peu de pâte d'arachide. Voilà, là, la sauce serait un peu consistante avec la céréale qui va avec. Ils peuvent ne pas mettre viande, ils peuvent ne pas mettre poisson. Mais s'ils ont, par exemple, du haricot, ils peuvent faire bouillir le haricot. Là, l'utiliser comme viande ou poisson et le mettre dans la sauce.
Les recettes ne manquent pas. Et pour faciliter l'adaptation alimentaire des personnes déplacées, des initiatives locales comme des ateliers de cuisine communautaire aident à donner plus de goût à leur cuisine et du même coup à leur vie.
Momo et Nafou. Momo, lui, ne supporte pas de devoir manger des aliments auxquels il n'était pas habitué. Nafou lui explique l'importance de l'adaptation alimentaire qui consiste à utiliser les ressources disponibles.
Bonjour Nafou.
Bonjour Momo. Quel bon vent t'amène aujourd'hui?
Écoute, c'est le vent de la pauvreté, ma soeur. Hmm? Je veux que tu me prêtes un peu d'argent pour acheter du mil pour la cuisine.
Hein? Tu blagues, hein, Momo? Tu blagues, c'est sûr. Regarde ce que je prépare. Tu crois que je n'aime pas manger du mil? Mais ici, on doit s'adapter, Momo. Les moyens manquent et on fait avec ce qu'on a.
S'adapter, ça. Nafou, laisse-moi tranquille avec vos histoires d'adaptation alimentaire. Moi, je mange ce que je connais. Le mil, le riz, et pas n'importe quel. Celui que j'avais l'habitude de manger chez moi, là où j'étais.
Ici, on doit faire avec les produits disponibles, Momo. Tu vois, on a du maïs au lieu du mil. Et il faut apprendre à le cuisiner.
Mais moi, je n'y arrive pas. Le maïs, c'est pas mon truc. C'est pas comme le mil.
Tu n'es pas le seul, Momo. Beaucoup ici avaient l'habitude du mil. Mais tu sais bien que chaque localité a ses cultures, ses habitudes alimentaires. Il se trouve donc qu'ici, c'est le maïs qui est beaucoup cultivé et consommé. Il faut donc s'adapter.
C'est impossible. Le taux de maïs ne rassasie pas vite. En plus, le goût est bizarre. C'est pas comme chez nous.
Je te comprends, Momo. Mais c'est une question d'habitude. Tu sais, moi aussi j'ai eu du mal au début. Mais j'ai trouvé des astuces pour améliorer le goût. Par exemple, j'ajoute des feuilles de tamarin. Je rehausse aussi le goût avec une sauce faite avec des feuilles locales ou du bon piment qu'on trouve ici, Momo. C'est bon, hein?
Des feuilles locales? Tu veux dire comme celles des arbres qu'on voit là-bas, là ou quoi?
Exactement, Momo. Ces feuilles-là même. Je ne connaissais pas avant, hein? On ne les trouve qu'ici. Et c'est parfait pour accompagner le taux de maïs. Elles rehaussent le goût et elles sont pleines de vitamines, Momo.
Maintenant, fou.
Oui.
Même avec toutes ces astuces-là, ce n'est pas pareil. Chez moi, on mangeait toujours avec du lait. Ici, il n'y en a pas.
Oui, c'est vrai. Le lait manque. Mais certains préparent une sauce légère avec des graines de niébé ou d'arachide. Ça donne un goût crémeux, Momo.
Et tu crois vraiment que moi, Momo, je vais m'habituer?
Bien sûr, Momo. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu sais, Momo, l'adaptation, c'est comme un voyage. Au début, c'est difficile. Mais avec le temps, tu découvriras de nouvelles saveurs. Tu restes pour déguster mon plat fait à base des produits d'ici? Je parie que tu vas aimer, Momo. C'est sûr.
D'accord. Bon, je vais essayer. Mais si je n'aime pas, tu vas me préparer du taux de mil avec sauce gombo sec potassée.
La fille qui bat.
Ce changement brusque de régime alimentaire peut également avoir un impact sur la santé mentale des individus, surtout s'il est perçu de façon négative, nous explique le docteur Daouda Kouma, maître de conférence en psychologie sociale du travail et des organisations. Il répond au micro de Awamuniratu Tankwano.
Bonsoir docteur Kouma.
Bonsoir.
Dites-nous, quel peut être l'impact psychologique d'un changement brusque de régime alimentaire dans une situation de déplacement forcé?
L'alimentation participe à la santé mentale d'une personne. Selon que l'on mange ce que l'on aime ou selon que l'on mange ce que, dont on a habitude de manger, ça n'a pas les mêmes effets que quand on change brusquement. Surtout si la nouvelle alimentation n'est pas ce qui est attendu, ça peut créer une perturbation de l'humeur, ça peut jouer sur l'émotion, ça peut jouer sur le dégoût. Mais n'oublions pas qu'on peut changer aussi de façon positive. On peut quitter une alimentation qui n'était pas très appréciée vers une alimentation qui est très appréciée. Donc ça dépend des situations. Ça, l'impact peut être positif ou négatif selon que ce qui est donné est mieux ou moins bien que ce qu'on mangeait.
Justement, quand on considère que ce qui est donné est moins bien que ce qu'on mangeait, comment s'adapter et ne pas se braquer face à ce nouveau régime alimentaire-là?
De façon générale, quand c'est comme ça, il ne faut pas qu'on, brusquement, on impose la nouvelle alimentation aux personnes en question. Il faut les préparer. Donc, il y a un discours d'accompagnement. Il faut sensibiliser. Donc, quand il y a la sensibilisation, et puis surtout, quand on arrive à faire ressortir les valeurs nutritives de la nouvelle alimentation, parce que la résistance au changement, c'est parce qu'on a des craintes. Et quand on arrive à soulager, à rassurer, à mettre les personnes en sécurité émotionnelle, il n'y a pas de raison que les gens n'adoptent pas la nouvelle alimentation et peut-être même ne vont plus vouloir quitter la nouvelle alimentation pour l'alimentation d'avant. Si on ne fait pas ça, si on décide que bon, dans tous les cas, on peut faire leur bien malgré les personnes, ça veut dire qu'il peut y avoir des braquages. Il y en a qui vont préférer mourir de faim que de manger une alimentation à laquelle la personne n'est pas habituée ou la personne n'y trouve pas du goût. N'oublions même pas qu'il y a des mythes et des cultures. La personne peut dire que c'est contraire à notre tradition, c'est le totem de notre famille. Donc, il y a tous ces éléments-là. Donc, il faut d'abord appréhender le terrain. C'est ce que nous disons, il faut tâter le terrain.
Merci, docteur Kouma.
C'est moi qui vous remercie.
Kibar utile. Sur le terrain de l'action humanitaire, l'ONG Oxfam s'illustre dans l'aide alimentaire aux populations, plus spécifiquement aux déplacés internes. Dans son action, l'ONG tient compte du besoin alimentaire de chaque communauté, même si elle fait face à des difficultés d'ordre pratique, comme nous explique Amado Ouedraogo. Il est le responsable de programme Action humanitaire d'Oxfam. L'entretien est réalisé par Olivia Yen.
Concrètement, en quoi consiste l'aide alimentaire de Oxfam?
Oxfam est une organisation qui a une vocation humanitaire aussi. Donc tout ce qui relève des besoins humanitaires, on essaie d'apporter notre contribution pour couvrir cela. Donc c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'accès à l'eau, hygiène, assainissement et des questions de protection. Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, c'est surtout l'assistance alimentaire. Et donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de fournir une ration alimentaire aux personnes vulnérables. Je préfère personnes vulnérables parce que ce n'est pas que les PDI, les personnes déplacées internes. Il y a aussi les communautés autres qui sont vulnérables. Donc on apporte une ration alimentaire qui va couvrir au minimum 3 mois de besoins en termes alimentaires. Donc c'est ce qu'on essaie de faire dans la région du centre-nord, la région du Sahel. On est aussi en train de faire une extension vers la région du nord.
Pour ce qui concerne les déplacés internes, comment se fait l'aide alimentaire et quels sont les produits que vous leur distribuez?
On a différents types de réponses alimentaires. Les déplacés qui viennent d'arriver, par exemple, on essaie d'apporter une assistance alimentaire à ces déplacés-là, aux plus vulnérables, parce que quelqu'un peut être déplacé sans être vulnérable. Donc il y a des critères de vulnérabilité quand même qu'on va regarder. Ensuite, il y a ceux-là aussi qui sont là. Après 3 mois, on leur apporte une assistance alimentaire. Et maintenant, donc c'est sur la base de ces critères-là qui sont choisis. L'assistance alimentaire, généralement, est composée d'un certain nombre de vivres. Ce sont les céréales. Quand je dis céréales, ça peut être du mil, ça peut être du riz. Et puis, il y a les légumineuses. J'entends par légumineuses le haricot, par exemple. Et puis, il y a de l'huile. Il y a aussi du sel. Donc, pour une ration alimentaire d'une personne, on va donner 12 kilos de céréales, 3 kilos de légumineuses, 0,75 kg d'huile qui correspond environ à 0,80 litres et puis 0,15 g de sel par mois. Quand on décide d'assister une personne, ça veut dire qu'on va lui apporter cela pour 3 mois.
Nous avons réalisé un reportage où les déplacés nous confient qu'ils ont du mal à s'adapter côté alimentaire. Est-ce qu'à votre niveau, quand vous décidez de distribuer les vivres, est-ce que vous tenez compte des habitudes alimentaires de chaque communauté avant la distribution?
L'aide humanitaire est régie par des principes, ce qu'on appelle les normes humanitaires. Et donc, quand vous prenez au niveau des normes humanitaires, l'une des normes est que l'aide soit adaptée aux besoins des populations et qu'elle soit appropriée. Cela nous oblige justement à tenir compte des préoccupations des populations, en tout cas pour ce qui concerne Oxfam. Le deuxième élément, quand on apporte l'aide, il doit y avoir une participation des populations dans la définition de ce qui va être une assistance à leurs besoins. Donc, tenant compte de cela, ce que nous essayons de faire, il y a ce qu'on appelle le cluster sécurité alimentaire. Il y a aussi le SAP, le système d'alerte précoce. Donc, ces deux systèmes-là, ils vont exploiter les bases de données de production et de consommation des populations de toutes les régions. Et donc, il y a des documents disponibles à ce niveau-là que nous essayons d'exploiter. Ce qui nous permet de savoir les habitudes alimentaires de ces personnes-là. C'est vrai que ça devient un peu complexe lorsqu'on a des populations qui se déplacent d'une zone vers une autre zone. Si vous essayez de regarder les éléments de la zone d'accueil, vous pouvez vous tromper. C'est important qu'on essaie d'analyser aussi les éléments de la zone d'origine de ces personnes-là. Nous essayons quand même d'exploiter ces données-là afin de savoir leurs préférences alimentaires. Sur cette base, on détermine la composition de la ration des populations que nous avons assistées. Maintenant, on ne peut pas définir une aide sans que ceux à qui on apporte cette assistance-là ne soient consultés. Donc on fait des entretiens aussi avec ces personnes-là pour nous assurer que cela convient aussi à leurs besoins, que c'est adapté. Ça, c'est le deuxième volet. Le troisième aspect, lorsque nous faisons les distributions de vivres, on a ce qu'on appelle le post-monitoring distribution, le PDM. Ce sont les enquêtes qu'on fait qui vont permettre d'aller vers justement ces ménages qui ont bénéficié de l'aide-là et d'essayer de savoir quelle est leur satisfaction vis-à-vis de ce que nous leur avons apporté. Et donc, ça permet quand même de savoir est-ce que c'est adapté. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Les données de ces enquêtes-là vont nous permettre de savoir où sont les insuffisances, quelles sont les mesures correctives qu'il faut apporter. Mais il y a aussi une réalité sur le terrain, la disponibilité des vivres ou le coût des vivres. Quand vous prenez par exemple cette année, pendant la période de soudure, on a fait face à une pénurie des légumineuses, le haricot. On a essayé de voir qu'est-ce qui peut remplacer le haricot. Certains ont proposé même de la sardine. Nous sommes allés vers ces populations-là pour les consulter. Ces populations n'en voulaient pas. Donc l'autre solution qu'on a essayé de voir, c'était de voir qu'est-ce qui se rapproche le plus du haricot. C'est le poids de terre. Mais la quantité n'était pas suffisante. C'est pour dire qu'il y a aussi des contraintes du terrain qui font qu'on ne peut pas tout le temps avoir une réponse qui soit appropriée et qui réponde exactement aux besoins des gens.
Merci, monsieur.
Je vous en prie.
Bonne arrivée. Direction Cambouincin, un quartier situé à la sortie nord de la ville de Ouagadougou, pour la rubrique Bonne arrivée. Nous allons à la rencontre d'Abel Ouedraogo, promoteur d'une boutique de vente et de réparation de téléphones. Il a employé deux personnes déplacées internes. Découvrons ensemble comment se passe leur collaboration.
Bonjour, nous sommes actuellement à Ouagadougou, et plus précisément au secteur 38 dans l'arrondissement 9 à Cambouincin. Nous sommes au niveau du télécom, Abel Télécom. Bonjour monsieur Velao.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va bien.
Et vos activités?
Ça va bien.
D'accord.
Voilà, grâce à Dieu.
Vous c'est?
Moi c'est monsieur Velao Abel. Je suis le responsable du télécom Abel Ouedraogo et Frère, qui est situé à Cambouincin. Voilà, c'est un télécom qui comprend des matériels téléphoniques. Nous faisons aussi la réparation et les transactions Orange Money et les films et les séries. Nous faisons aussi la vente des films et séries.
Ah, d'accord. Nous aurons appris que vous faites et vous collaborez avec les personnes déplacées internes.
Effectivement, puisque bon, c'est vrai que la situation du pays a fait que nos frères et sœurs qui sont dans ces localités se sont déplacés pour venir vers Cambouincin. Donc ceci étant, et les jeunes sont en quête d'emploi, bon, ça fait que certains déplacés qui peuvent faire certains métiers et nous collaborons ensemble pour que ensemble le pays puisse avancer.
D'accord, mais vous avez employé combien dans votre atelier?
Dans mon business, dans mon entreprise, et j'ai employé une femme qui est chargée de la gestion de télécom et un jeune homme pour la réparation des téléphones.
D'accord. Nous allons devoir causer avec vos employés et puis vous revenez.
D'accord.
Merci pour l'instant. Bonjour monsieur le gérant.
Bonjour.
Vous c'est?
Moi c'est Tamboura Oumarou.
Tamboura Oumarou.
Oui.
D'accord, vous êtes déplacé interne.
Oui, je suis déplacé interne.
Ok, vous étiez dans quelle localité avant de venir à Ouara?
Moi j'étais Tourmayère. Mais avec l'insécurité, je suis venu à Ouara ici pour chercher quelque chose à faire, quoi. Mais arrivé à Ouara ici, donc, j'ai tourné, donc je suis venu voir le monsieur, monsieur Abel. Mm-hmm. Abel Ouedraogo, donc oui. Il m'a donné son télécom à gérer. Mm-hmm. Donc là-bas, moi j'ai géré le télécom et puis les accessoires aussi à vendre, quoi. Mm-hmm.
Donc, d'accord, et comment ça se passe votre collaboration avec M. Ouedraogo?
Ah non, avec M. Ouedraogo, moi je pense que ça va.
Ouais.
Ouais, tout ça se passe bien.
Il vous paye très bien. Vous
oui,
arrivez
oui.
À vous occuper de vous-même, vos propres besoins.
Ah, en tout cas, ça va. Je peux dire que ça va un peu.
D'accord. Donc, nous allons aller voir votre collègue là.
Ouais.
Je vais venir. Merci bien. Bonjour madame, comment vous allez?
Bonjour monsieur, je vais bien chez vous.
Oui, très bien.
Ok.
Et vous c'est madame?
Moi c'est madame Sawadogo. Sarata.
Sawadogo Sarata.
Ok.
Et qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise de Ouedraogo Abel Telecom?
Sur Ouedraogo Abel Telecom, ce que moi je fais, ce sont les transactions Orange Money, les dépôts, les transferts. Et autres.
Et comment ça se passe la collaboration avec M. Ouedraogo?
Avec M. Ouedraogo, ça va. Tout ça se passe bien. Puisque avec M. Ouedraogo, il nous paye bien. À la fin du mois, chacun a son salaire. Avec le salaire qu'on a aussi, ça nous permet de subvenir à nos besoins. Et aux besoins de nos familles aussi.
D'accord. Vous êtes déplacé interne?
Oui.
Avant de venir à Ouara, vous étiez dans quelle localité?
J'étais à Serson.
Serson?
Oui.
D'accord. Ok, nous allons. Merci beaucoup pour la collaboration. Vous reviendrez si possible. Merci. Monsieur Abel Delecom, nous sommes à vous. La collaboration avec. La personne déplacée, là, ça se passe comment?
Bon, je peux dire que ça se passe très bien.
Mm-hmm.
Voilà. Bon, souvent, il y a des petites discussions, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Une collaboration humaine comporte toujours quelques défauts. Voilà, mais en tout cas, dans l'ensemble, en tout cas, ça va.
Ah,
ça va
bien. D'accord, mais qu'avez-vous à dire, Jean, votre dernier mot? Nous sommes à la fin de l'émission.
D'accord, bon, en tout cas, c'est très bien de vouloir s'enquérir des nouvelles des déplacés vu leur situation, c'est très bien. Et bon, en tout cas, que votre travail puisse porter des fruits.
Amen,
parce que
amen,
c'est
amen.
Pour le bien des déplacés.
Amen, amen, amen.
La rubrique Musique Live est réalisée par Aimé Roland Ouedraogo.
Aujourd'hui, dans la rubrique Musique Live, nous avons l'honneur d'accueillir une artiste et une femme de cœur, la chanteuse Séraphine Bansé. Par sa voix, son engagement et sa musique, elle touche de nombreuses vies, apportant réconfort et espoir dans les moments les plus difficiles. Nous aurons l'occasion de discuter de son parcours, de son engagement spirituel et de l'impact de la musique dans les moments de crise. Restez avec nous pour cette conversation inspirante. Séraphine Bansé, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir à vous.
Comment vous allez?
Oui, ça va bien.
Bien, merci. Également en studio avec nous, le frère Moïse Nitiama. Moïse, bonsoir et bienvenue. Merci. Séraphine Bansé, vous êtes artiste, auteur-compositeur burkinabé.
Oui.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant que chanteur et de ce qui vous a poussé à vous engager dans la musique sacrée?
Bien, oui, c'est la chanteuse Séraphine Bansé. Et j'ai commencé la musique il y a longtemps. Par la grâce de Dieu, j'ai été appelée à ce ministère-là 1997 où j'ai fait sortir mon premier album. Et depuis lors, bon, je poursuis mon chemin avec le Seigneur.
Quel défi avez-vous rencontré au début de votre carrière et comment avez-vous surmonté ces obstacles?
Bon, le début, hein, c'est comme tout le monde. On n'a pas fait l'école de musique, donc on est rentré dans la musique comme ça. On essaie vraiment de louer Dieu, de servir Dieu. Donc les difficultés, c'était vraiment travailler à connaître quelques rudiments de la musique, quoi. Voilà.
Quelles sont les valeurs spirituelles que vous souhaitez transmettre à travers votre musique?
Mais les valeurs que je transmets, c'est l'amour, déjà, oui, parce que Dieu nous recommande de nous aimer les uns les autres.
Bien sûr.
Donc je prône l'amour, le pardon aussi également, parce que si nous ne pardonnons pas, Dieu aussi ne va pas nous pardonner.
Bien sûr.
Donc ce sont ces valeurs-là que je véhicule à travers les chants.
C'est pas fini pour toi. C'est pas fini pour toi. Il a le dernier mot. C'est pas fini pour toi. C'est pas fini pour toi. Il a le dernier mot. Tourne-toi vers lui. Rien n'est impossible à ton Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est pas fini pour toi, même si tout se complique.
Félicitations, Tante Séraphine Bansi. Quel est le message voulu véhiculer dans cette chanson?
Dans cette chanson, j'encourage les uns et les autres à ne pas se décourager. Quelle que soit la situation que tu traverses, dis-toi que c'est Dieu qui a le dernier mot.
Expliquez-nous cette magie. Comment votre musique et vos chansons peuvent-ils apporter un message de réconfort aux populations déplacées ou autochtones touchées par la crise sécuritaire?
En ces temps-ci, vraiment, la musique a vraiment sa place. Et surtout, la musique qui parle du Seigneur, qui parle de Dieu. Nous voyons que même dans la Bible, il y a eu des moments, des temps difficiles, mais c'est à travers la louange, à travers l'adoration que les victoires ont été remportées.
Nous tirons tout doucement vers la fin de notre entretien. Dites-nous, que diriez-vous aux populations déplacées autochtones qui subissent les effets de l'insécurité dans leur quotidien?
Ce que je peux leur dire, c'est qu'ils gardent la foi. Et comme je l'ai dit, Dieu ne les a pas oubliés et Dieu ne les a pas abandonnés. Non, ils n'ont qu'à garder leur foi au Seigneur, parce que je pense que bientôt tout rentrera dans l'ordre et chacun va rejoindre ce choix. Mais en attendant, accrochons-nous au Seigneur et gardons la foi.
C'est notre prière à tous, que Dieu puisse exaucer nos prières. Merci beaucoup Séraphine Bansé, que votre voix continue de porter des messages de paix, de réconfort et d'espoir, et qu'elle trouve encore de nombreuses occasions de toucher les cœurs de ceux qui en ont besoin.
Vraiment.
Voilà, prière que Dieu vous assiste et que vous accompagne.
Amen.
Et qu'il fasse régner la paix.
Amen, vraiment, on n'attend que ça, que la paix vraiment revienne et que nous nous attrapons les mains dans la main.
Qu'il en soit ainsi.
Je veux dire, merci.
Merci beaucoup. Merci.
Le dernier
C'est ainsi que se referme votre magazine. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. En attendant, prenez soin de vous.